Chapitre 2. Le pays de l'ombre. Sam eut tout juste la présence d'esprit de remettre la fiole contre sa poitrine.
« Courez, monsieur Frodo » cria-t-il. « Non, pas par là. Il y a un abrupt de l'autre côté du mur. Suivez-moi »
Ils s'enfuirent le long de la route partant de la porte. En 50 pas, par un rapide détour derrière une avancée de l'escarpement, elle les amena hors de vue de la tour. Ils s'étaient échappés, pour le moment. Tapis contre le roc, ils reprirent leur souffle et s'étreignirent le cœur. Perché à présent sur le mur à côté de la porte en ruine, le Nazgûl lança ses cris mortels. Tous les rochers retentirent. Terrorisés, ils repartirent clopin-clopant. Bientôt, la route fit un coude et reprit sa course vers l'est, les exposant à la vue de la tour pendant un affreux moment. Comme ils fuyaient par là, ils jetèrent un regard en arrière et virent la grande forme noire assise sur le rempart. Alors ils plongèrent entre de hautes parois rocheuses et se jetèrent dans une ravine qui descendait abruptement jusqu'à la route de Morgul. Ils arrivèrent au carrefour des voies. Il n'y avait toujours aucun signe d'orque, ni aucune réponse aux cris du Nazgûl. Mais ils savaient que ce silence ne durerait pas. La poursuite débuterait d'un instant à l'autre.
« Ça ne va pas du tout, Sam, » dit Frodo. « Si nous étions de vrais orques, nous nous serions empressés de regagner la tour, pas de nous en éloigner. Nous serons démasqués à la première rencontre. Il faut quitter cette route d'une manière ou d'une autre. »«
Mais on ne peut pas, » dit Sam. « Il nous faudrait des ailes. »
La face est de l'Effeldwath était abrupte, ses falaises et ses précipices se jetant dans la sombre gorge qui les séparait de la chaîne intérieure. Passé le carrefour, après une autre pente raide, un pont de pierre sautait d'une seule travée par-dessus le gouffre et conduisait la route au cœur des ravins et des pentes affaissées de la Morgaï. Frodo et Sam piquèrent une course désespérée à travers le pont, mais ils n'avaient pas encore atteint l'autre bout que les clameurs s'élevèrent. Loin derrière eux, maintenant juchés sur le flanc de la montagne, se dressait la tour de Kirith Ungol, ses murs de pierre jetant un reflet terne. Soudain, sa cloche stridente carillonna de nouveau, bientôt à toute volée, une sonnerie fracassante. Des cors retentirent, et à l'autre bout du pont venaient à présent des cris de réponse. Au creux de la gorge, coupés de l'allure mourante de leur odruine, Frodo et Sam ne pouvaient voir devant eux. Mais ils entendaient déjà le piétinement des semelles de fer et, sur la route, de vifs roulements de sabots.
« Vite, Sam, sautons !» cria Frodo.
Ils se hissèrent au-dessus du parapet, qui n'était pas bien haut. Heureusement, la chute n'était plus aussi vertigineuse car les flancs de la Morgaï s'étaient déjà haussés presque au niveau de la route. Mais il faisait trop sombre pour apprécier la hauteur du saut.
« Eh bien, on y va, monsieur Frodo !» dit Sam. « Adieu !»
Il lâcha prise. Frodo le suivit. Et alors même qu'ils tombaient, ils entendirent la ruée des cavaliers sur le pont et le cliquetis des chaussures de fer qui les suivaient au pas de course. Mais Sam aurait ri s'il l'avait osé. Craignant une chute mortelle sur un banc de rochers invisibles, les hobbits allèrent s'écraser avec un craquement sourd en un plongeon d'une douzaine de pieds au plus dans la chose la plus inattendue, un fouillis de buissons épineux. Sam y resta tranquillement assis, suçotant une égratignure sur le dos de sa main. Quand le son des sabots et des bottes se fut éteint, il hasarda un murmure.
« Ah ça, monsieur Frodo, je savais pas qu'il poussait des choses au Mordor. Mais si j'avais su, c'est bien à ça que j'aurais pensé. Ces épines, elles doivent faire un pied de long rien qu'à les sentir. Elles sont rentrées dans toutes mes affaires. Si j'avais mis cette fichue côte de maille aussi... »
« Des mailles orques ne repousseraient pas de telles épines, » dit Frodo. « Même un gilet de cuir n'y parviendrait pas. »
Ils durent lutter afin de s'extirper du hallier. Les épines et les ronces étaient raides comme du fil de fer et s'accrochaient comme des serres. Lorsqu'ils se libérèrent enfin, leurs capes étaient déchirées et en loques.
« Maintenant descendons, Sam, » murmura Frodo. « Au fond de la vallée, vite, puis au nord dès que ce sera possible. »
Le jour revenait dans le monde extérieur. Loin, au-delà des ténèbres du Mordor, le soleil passait la lisière orientale de la terre du milieu. Mais le pays autour d'eux restait noir comme la nuit. la montagne se mit à fumer copieusement et ses feux s'éteignirent. La lueur s'évanouit sur la face des rochers. Le vent d'est, qui n'avait cessé de souffler depuis qu'ils avaient quitté l'Ithilienne, semblait être tombé. Ils descendirent lentement et péniblement, s'agrippant, s'aidant des pieds et des mains, achoppant sur les pierres, les ronces et le bois mort, parmi les ombres aveugles toujours plus bas, jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Enfin, ils s'arrêtèrent et s'assirent côte à côte, le dos appuyé contre un gros rocher. Tous deux étaient en nage.
« Si Chagrat en personne venait m'offrir un verre d'eau, je lui serrerais la main, »
dit Sam.
« Ne dis pas des choses semblables, » protesta Frodo. « Ça ne fait qu'empirer notre malheur. »
Sur quoi, fatigué et pris d'étourdissement, il s'étira sans rien ajouter. Enfin, il fit un effort pour se relever. À sa stupéfaction, il vit que Sam s'était endormi.
« Réveille-toi, Sam. Allons, il est temps de donner un autre coup de collier. »
Sam se releva comme il put.
« Ça, par exemple, » dit-il, « j'ai dû m'assoupir. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi d'une traite, monsieur Frodo, et mes yeux se sont fermés tout seuls. »
Frodo partit alors en tête vers le nord, pour autant qu'il put en juger, parmi les pierres et les rochers qui encombraient le fond du grand ravin. Mais bientôt il s'arrêta de nouveau.
« Ça ne sert à rien, Sam, » dit-il. « Je n'y arriverai pas. Cette chemise de maille, je veux dire, pas dans l'état où je suis. Même ma cotte de mithril me semblait lourde quand j'étais fatigué. Cette chose est beaucoup plus lourde, et quelle est son utilité? Ce n'est pas en se battant qu'on atteindra le but. »
« Mais il se peut qu'on doive se battre, » dit Sam. « Et il y a les poignards et les flèches perdues. Ce Gollum, il n'est pas mort pour commencer. Je suis pas tranquille à l'idée qu'il y ait qu'une épaisseur de cuir pour vous protéger d'un coup de couteau dans le noir. »
« Écoute bien, Sam, mon brave garçon, » dit Frodo. « Je suis là, épuisé. Je n'ai plus le moindre espoir. Mais je dois continuer de faire tout mon possible pour me rendre à la montagne tant que je pourrai marcher. L'anneau, c'est déjà bien assez. Ce poids supplémentaire me tue. Il faut m'en défaire. Mais sache que je t'en suis reconnaissant. Je n'ose pas imaginer quelle sale besogne cela a été de fouiller parmi les cadavres pour me dénicher ça.
« Je vous en prie, monsieur Frodo. Il n'y a pas de quoi. Je vous porterai sur mon dos si je pouvais. Balancez-la. »
Frodo retira sa cape, enleva sa chemise de maille et la jeta parmi les rochers. Il eut un léger frisson.
« C'est un vêtement chaud qu'il me faudrait, à vrai dire, » reprit-il. « Il fait frais tout à coup, ou alors j'ai dû prendre froid. »«
Vous avez qu'à prendre ma cape, monsieur Frodo, »
dit Sam. Il posa son paquet et en sortit la cape elfique.
« Qu'en dites-vous, monsieur Frodo ? »
demanda-t-il.
« Serrez cette guenille d'or que tout contre vous et passez la ceinture autour. Puis mettez ça pour recouvrir le tout. C'est pas tout à fait à la mode orque, mais ça vous tiendra plus au chaud. » Et je parie que ça vous protégera plus qu'aucune autre pièce d'équipement. Ça a été fait par la dame. »
Frodo revêtit la cape et épingla la broche.
« Voilà qui est mieux, » dit-il. « Je me sens beaucoup plus léger. Je peux continuer maintenant. Mais ce noir d'encre semble me pénétrer le cœur. Étendu dans ma prison, Sam, j'ai essayé de me rappeler le brandivin, pointe au bois, et l'eau passant à travers le moulin à Hobbitville. Mais je ne les vois plus maintenant.
« Allons, monsieur Frodo, c'est vous qui parlez d'eau cette fois !»
répondit Sam. « Si seulement la dame pouvait nous voir ou nous entendre, je lui dirais, « Madame, tout ce qu'on veut, c'est de la lumière et de l'eau. Un peu d'eau pure et la simple lumière du jour, ça vaut mieux qu'aucun joyau, sauf votre respect. Mais on est loin de la Lorienne. »
Il soupira, agitant la main vers les hauteurs de l'Eiffel Douath, à peine discernable à présent, ombre plus noire que la noirceur du ciel. Ils reprirent leur marche, mais Frodo s'arrêta avant peu.
« Il y a un cavalier noir au-dessus de nous, » dit-il. « Je le sens. Nous ferions mieux de ne plus bouger pour quelque temps. »
Tapis sous un gros rocher, ils s'assirent face à l'ouest et s'abstinrent de parler un moment. Puis Frodo poussa un soupir de soulagement.
« Il est passé, » dit-il.
Ils se levèrent, et alors un spectacle étonnant arrêta leurs deux regards. Au loin sur leur gauche, vers le sud, contre un ciel virant au gris, les cimes et les hautes crêtes de la grande chaîne commencèrent d'apparaître, sombres et noires, des formes visibles. La lumière croissait derrière elle. Elle gagnait lentement le nord. Un combat était engagé au-dessus d'eux, dans les hauts espaces de l'air. Les nuages boursouflés du Mordor étaient repoussés et leurs bords s'effilochaient tandis que se levait une brise du monde vivant, balayant fumée et vapeur vers la terre sombre qui les avait crachés. Une lumière indécise filtrait sous l'encoignure de son sinistre plafond comme un pâle matin à travers les vitres crasseuses d'une prison.
« Regardez-moi ça, monsieur Frodo !» dit Sam. « Regardez ! Le vent a tourné. Il se passe quelque chose. Tout se passe pas comme il veut. Ces ténèbres se défont là-bas dans le monde. Que je voudrais donc voir ce qui se passe !»
C'était le matin du 15e jour de mars, et sur la vallée de l'Anduin, le soleil se levait au-dessus de l'ombre de l'est et le vent soufflait du sud-ouest. Théoden gisait à l'agonie sur les champs du Pélénor. Sous le regard de Frodo et Sam, le trait de lumière se répandit tout le long de l'Efel Duath, puis ils virent une forme arriver en trombe de l'ouest. Au début, ce n'était qu'un point noir devant la bande lumineuse au-dessus des cimes, mais elle grandit peu à peu avant de filer comme un éclair à travers le sombre plafond, passant loin au-dessus d'eux. Et comme elle passait, elle poussa un long cri strident, la voix d'un Nazgûl. Mais ce cri ne leur inspirait plus aucune terreur. C'était un cri de détresse et de consternation, de sinistre augure pour la tour sombre. Le seigneur des spectres de l'anneau avait trouvé son destin.
« Qu'est-ce que je vous disais? Il se passe quelque chose !»
s'écria Sam.
« Les choses vont bien, » disait Shagrat. Mais Gorbag en était pas si sûr. Et encore là, il avait raison. « Notre ciel s'éclaircit, monsieur Frodo. Vous avez un peu d'espoir maintenant ?»
« Eh bien non, pas tellement, Sam, » soupira Frodo. « C'est de l'autre côté des montagnes. Nous allons à l'est, non à l'ouest. Et je suis si fatigué. Et l'anneau est si lourd, Sam. Je commence à le voir tout le temps dans ma tête, comme une grande roue de feu. »
L'ardeur courageuse de Sam se refroidit aussitôt. Il regarda son maître avec inquiétude et il lui prit la main.
« Allons, monsieur Frodo, » lui dit-il. J'ai obtenu un de mes souhaits, un peu de lumière. Assez pour nous aider, mais je suppose que c'est dangereux aussi. Essayez encore un bout, et puis on pourra se blottir et prendre du repos. Mais mangez d'abord un morceau, un peu de nourriture des elfes. Peut-être que ça vous remontera. »
Ils partagèrent une gaufrette de lembas qu'ils mâchèrent comme ils purent dans leur bouche desséchée tout en cheminant. La lumière, qui n'était guère qu'un crépuscule gris, leur permit cependant de constater qu'ils se trouvaient au creux de la vallée entre les montagnes. Cette dépression s'élevait doucement vers le nord, et le lit d'un cours d'eau tari et desséché courait en son sein. Par-delà le chenal pierreux, ils virent un sentier battu traçant une ligne sinueuse au pied des falaises de l'ouest. S'ils avaient su, ils auraient pu l'atteindre avant, car cette piste quittait la grande route de Morgul à l'extrémité ouest du pont et descendait au fond de la vallée par un long escalier taillé dans le roc. Elles étaient empruntées par des patrouilles ou des messagers, envoyés en dépêche vers des postes et des forteresses secondaires situées plus au nord, entre Kelitungol et le couloir de la Gueule de Fer, les terribles mâchoires de Karak Angren. Pareille route était périlleuse pour les hobbits, mais ils devaient faire vite, et Frodo sentait qu'il n'aurait pas le cœur de se traîner parmi les pierres ou dans les ravins impraticables de la Morgaï. Et le nord, se disait-il, était sans doute la direction la plus improbable pour eux, dans l'esprit de leurs poursuivants. La route de l'est jusqu'à la plaine, et celle du col ramenant vers l'ouest, celle-là serait ratissée en priorité. Il attendrait d'être bien au nord de la tour. Seulement là, comptait-il bifurquer pour trouver une voie qui le mènerait à l'est, dans l'ultime et impossible étape de son voyage. Aussi franchirent-ils alors le lit pierreux pour rejoindre le sentier orc qu'ils suivirent pendant quelque temps. Les falaises sur leur gauche étaient en surplomb et ils ne pouvaient être aperçus d'en haut. Mais le sentier faisait de nombreux coudes et ils agrippaient chaque fois la poignée de leur arme, avançant avec prudence. La lumière restait faible, car leur odruine continuait de vomir une immense fumée qui, rejetée par les vents contraires, montait toujours plus haut, jusqu'aux régions plus calmes où elle s'épanchait en une voûte incommensurable dont le pilier central se dressait, caché à leur vue au milieu des ombres. Ils se trimbalaient depuis plus d'une heure lorsqu'ils entendirent un son qui les mit en arrêt. Impensable mais indubitable, le gazouillis d'une source. D'une rigole sur leur gauche, si nettement et si étroitement découpée qu'elle paraissait taillée à grands coups de hache dans la falaise noire, une eau s'écoulait, dernier vestige peut-être de quelques douces pluies amassées sur des mers ensoleillées, mais qu'un triste destin avait fait tomber sur les murs du pays noir où il suivait son cours stérile jusque dans la poussière. Elle sortait ici des rochers en une petite cascade, coulait à travers le sentier et partait vivement vers le sud pour se perdre parmi les pierres mortes. Sam se précipita à sa rencontre.
« Si jamais je revois la dame, je vais lui dire !»
s'écria-t-il.
« De la lumière et maintenant de l'eau !»
Puis il s'arrêta.
« Laissez-moi boire en premier, monsieur Frodo !»
dit-il.
« D'accord, mais il y a assez de place pour deux. »« C'est pas ce que je voulais dire, » répondit Sam. « Je veux dire, si c'est poison ou quelque chose qui montrerait tout de suite son côté néfaste, eh bien vaut mieux que ce soit moi et pas vous, maître, si vous me comprenez. »
« Oui, Sam, mais allons-y ensemble s'il faut s'en remettre à la chance ou à la bénédiction. Tout de même, fais attention si c'est très froid. »
L'eau était froide, mais pas glaciale. Et elle avait un goût désagréable, amer et huileux à la fois. C'est du moins ce qu'ils auraient dit chez eux. Ici, elle semblait au-dessus de tout éloge, interdisant toute peur et toute prudence. Ils en burent tout leur soûl, et Sam remplit sa gourde. Après cela, Frodo se sentit mieux, et ils continuèrent pendant plusieurs milles, jusqu'au moment où la route s'élargit et où un rudiment de mur sur le côté les avertit qu'ils approchaient d'un autre repère d'orques.
« C'est ici que nous nous détournons, Sam, » dit Frodo. « Et il faut prendre vers l'est. »
Il soupira en regardant les sombres crêtes de l'autre côté de la vallée.
« Il me reste juste assez d'énergie pour trouver quelques trous là-haut. Puis, je vais devoir me reposer un peu. »